On ouvre donc ce journal par ces accidents en série hier sur la 84. Tout a commencé hier matin avec 4 accidents à hauteur de Pont-Farcy et Gouvet. À chaque fois, des voitures dans le décor en raison de la neige fondue, voire de la grêle. Et puis hier soir, peu après 20h, un carambolage a impliqué 6 voitures à hauteur de Villedieu-les-Poil. L'accident n'a heureusement pas fait de blessés. Vous avez pu le vivre en direct sur notre antenne hier soir. Le Stade Malherbe de Caen a été logiquement battu par l'Olympique de Marseille en match avancé de la 22e journée de Ligue 1. Une défaite 2-0, relativement logique, même s'il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir les Marseillais ouvrir le score sur un pénalty de Dimitri Payet. Et 20 minutes plus tard, c'est Florian Thauvin qui portait le score à 2-0 d'un top but. Une nouvelle fois, Malherbe aura eu du mal à exister offensivement face à des Olympiens en pleine confiance. L'entraîneur canet Patrice Garande.
Je savais contre Marseille ce serait compliqué. Si j'ai des regrets, c'est parce qu'en arrivant à 0-0 à la mi-temps. Donc voilà, j'espérais qu'on puisse tenir plus longtemps en seconde mi-temps. Voilà, pour après les faire douter un peu plus, encore que ils font. Je sais pas s'ils ont beaucoup douté, mais. Non, mais après, l'idée c'est ça, quand on joue dans un match comme ça, vous êtes là, il y a 1500 Marseillais. J'ai présenté le match comme ça aux joueurs. C'est des grands matchs. On a tellement souffert l'année dernière pour les jouer, donc il faut les jouer. Voilà. À fond, qu'on n'ait pas de frustration à la fin du match, qu'on n'ait pas de regrets à la fin du match. Voilà. Et à chaque minute où on ne prendra pas de but, où on sera encore dans le match, où on sera actif, où on gagnera les duels, où on avancera sur l'adversaire, plus ça va avancer, plus le stade pensera que c'est possible. Voilà. Sauf que ça s'est arrêté à la 53e, où on a pris la 53e le pénalty. Donc voilà, l'idée c'est ça. Après, on sait bien que Marseille c'est plus fort. Mais ça va peut-être faire sourire, la façon dont vous allez l'écrire, ça va peut-être faire aussi sourire, je ne sais pas. Je ne prétends que ce n'était pas un grand Marseille, en tout cas sur la première mi-temps. Donc il y avait sûrement mieux à faire.
Et au classement, en attendant la suite de cette 21e journée, le Stade Malherbe de Caen reste 10e avec 27 points, à 6 longueurs du barragiste 3, l'OM. C'est hier soir emparé de la 2e place. Beaucoup de matchs de football annulés ce week-end dans la région en raison des conditions climatiques. En revanche, en National 3, le match de la 13e journée opposant Bayeux à Passimény est bien maintenu ce soir au Stade Henri Jeanne. Coup d'envoi donné à 18h. En basket, la 12e journée de pré-national masculine et le derby Vire-Bayeux à 20h ce soir à la MJC de Vire. Le handball avec la 11e journée de pré-national masculine, Courseul sera à Oissel chez l'avant-dernier demain après-midi, coup d'envoi du match à 16h. Du mépris pour les élus bayeusins, voilà comment l'opposition bayeusaine a qualifié le projet de prêt de la tapisserie de Bayeux à l'Angleterre en 2022. Le déménagement temporaire de la broderie millénaire a été le sujet de la semaine et c'est peu dire qu'il n'a pas fait l'unanimité. Jean-Marie Serroni, Yves Litzelmann et Stéphane Guillot ont co-signé un communiqué pour dénoncer la manière de procéder du maire Patrick Gaumont. Le leader de l'opposition, Jean-Marie Serroni, s'en est expliqué avec Aurélien Renaud.
Nous, la première chose qu'on dénonce, c'est que visiblement l'ensemble des élus ont découvert ça dans la presse hier et encore par la presse britannique. Et on a eu un mail du maire qui nous expliquait qu'il était au courant, qu'il n'était pas pris de vitesse, ce qui sous-entend bien que même sa majorité n'était pas au courant. Et donc il était en discussion avec l'État depuis quelque temps autour de ce prêt. Ça montre bien ce comportement absolument anormal que sur un fait aussi important et aussi symbolique pour Bayeux que la tapisserie, dont je rappelle qu'est un dépôt d'un bien national de la Révolution et un dépôt qui a été confié par Napoléon, je crois, aux bayeusins, que les représentants de bayeusins, que sont les élus, n'ont même pas été informés. Ça n'a jamais été discuté en conseil municipal. Je veux bien croire qu'il a pu y avoir urgence, mais pour autant, nous aurions dû être informés et être consultés en tant que représentants des bayeusins. C'est un comportement que nous dénonçons depuis très longtemps et qui, là, est absolument manifeste et absolument symbolique. Le maire ne discute jamais avant les projets, avant la validation finale avec le conseil municipal.
Et pour l'heure, si le projet fait jaser, il réjouit nettement outre-Manche. Adepte des paris, les Anglais viennent par ailleurs de secouer l'univers des bookmakers autour de l'endroit où la tapisserie sera temporairement exposée. Si certains ont parié sur le British Museum, l'abbaye de Westminster ou la cathédrale de Canterbury, d'autres ont été encore plus loin. Le bookmaker Ladbrokes offre par exemple une cote de 8 contre 1 sur le fait que la tapisserie soit affichée à Hastings et 16 contre 1 à Battle. Les détails et les modalités de ce prêt sont évidemment encore à définir. Que tout le monde sera sur côté Bayeux sérieuse. Néanmoins, contrairement à l'univers du foot, on ne parle pas ici de prêt avec option d'achat. Une nouvelle fois, le ministère de la Culture organise la nuit de la lecture. Ce soir, toutes les bibliothèques et librairies de France sont invitées à ouvrir grand leurs portes à leur public en dehors de leurs horaires habituels. Plusieurs établissements du Calvados sont évidemment prévus de jouer le jeu. C'est notamment le cas de la bibliothèque de Souleuvre en Bocage, située au Béni-Bocage. Ayant changé de locaux lors de la création de la commune nouvelle et disposant d'un nouveau mode de fonctionnement depuis le 1er avril 2017, la bibliothèque invite les visiteurs à investir ses locaux. Les précisions de Corinne Gruchet, en charge de l'animation de la bibliothèque de Souleuvre en Bocage.
Alors, il y a ça, parce que nous on propose deux temps, donc de 18h à 19h, ça va être un temps pour les enfants, avec l'idée de leur faire un coin très cocooning, qu'ils puissent venir en pyjama avec leur doudou, leur couverture, et donc pour un temps de lecture autour du thème de la nuit. À partir de 20h, ce sera vraiment plus adolescents et adultes. Et pour nous, l'objectif, c'était de profiter d'un dispositif national pour commencer à mettre en place des nocturnes sur la bibliothèque. Passer un temps autour de la lecture de textes, de partage autour de la lecture. Et puis aussi, ça permet de faire un coup de lumière sur... on a un club lecture qui fonctionne depuis longtemps, qui s'appelle le 4e de couverture, qui se réunit une fois par mois à peu près. Et donc, ça permettait aussi de faire un coup d'éclairage sur ce club lecture.
Et dans le Bessin, parmi les établissements participant à la nuit de la lecture ce soir, on retrouve la médiathèque de Bayeux qui jouera le jeu pour la toute première fois. Elle sera exceptionnellement ouverte de 17h à 22h avec notamment au programme des jeux de rôle et des lectures diverses. Céline Adamzik, en charge des collections fiction adulte et de l'animation culturelle de la médiathèque, nous détaille l'organisation de l'événement.
La nuit de la lecture à la médiathèque de Bayeux, ça va être organisé en partenariat avec trois associations de Bayeux ou de la région. Ces associations, c'est Summer Geeks qui est basée sur Sommervieux, il y a les Bayeunins et l'association Bayeux à la page qui organise le festival du livre. Les lieux en nocturne, ça va être un petit peu différent de ce qu'on voit de jour. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout. On visite un lieu la nuit, c'est pas pareil que si on visite ce même lieu le jour. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que du coup, ils vont pouvoir découvrir plein de choses pendant cette soirée-là. Notamment, il y a une initiation au jeu de rôle, donc c'est aussi le moment de découvrir ça, avec il y aura plein de jeux autour des mots. Donc c'est aussi une manière de voir les espaces habités par autre chose que le silence et les livres. Parce qu'une médiathèque, c'est pas ça, en fait. Hein. C'est beaucoup ça, c'est plein de vie, c'est plein d'animation, et c'est un petit peu ça aussi qu'on a envie de mettre en avant. Ils vont pouvoir aussi déguster des bonbons de notre confiseuse locale, et puis écouter des lectures chuchotées, donc c'est encore deux manières différentes d'appréhender les lieux et puis de voir la littérature aussi, et puis les manières de raconter aux enfants, et puis d'arriver dans un lieu.
Céline Adamzik, qui est également vice-présidente du Festival des Passeurs d'Encre, qui reviendra dans la capitale du Bessin en avril prochain. Concernant la nuit de la lecture ce soir, plus d'infos sont disponibles sur le site internet mediathèque.bayeux.fr, rubrique agenda. Zoom dans ce journal sur un cours qui vient de naître à l'université de Caen, intitulé « Journalisme et métier de l'édition ». Cela peut paraître étrange, mais malgré les nombreux campus qu'elle comporte, la cité cannaise offre difficilement à ses étudiants les moyens de se préparer véritablement au métier de journaliste ou au concours qui permettent d'y accéder. Depuis la rentrée dernière, les étudiants en troisième année de langue, littérature et civilisations étrangères parcours anglophone ont accès à ce cours s'il ne s'agit que d'une option. L'un des enseignants l'ayant mis en place, Michael Popelard, nous explique les raisons qui l'ont poussé à construire ce nouveau cours. Michael Popelard.
On s'est aperçu en fait que un certain nombre d'étudiants avaient envie de s'orienter vers une carrière du journalisme ou des métiers du journalisme, et que nous on proposait presque rien dans ce domaine, et donc on s'est interrogé pour savoir comment répondre à cette demande. Ce n'est qu'une option, mais on se propose en fait de faire deux choses, nous, c'est-à-dire de réfléchir de façon un peu théorique sur la réalité contemporaine du journalisme telle qu'elle nous apparaît. Ça, c'est la première chose, et puis la deuxième chose, c'est un travail sur la langue. Et puis on a pensé qu'il était bon aussi de donner la parole à des gens dont c'est le métier. En fait, quelle est votre pratique du journalisme, votre conception du journalisme, quelle est la réalité de votre travail au quotidien. Et ce sont des choses qui, évidemment, trouvent un écho très grand chez les étudiants qui sont ravis d'avoir cet éclairage-là.
Alors seulement quelques heures dédiées au journalisme au cours d'une semaine peuvent-elles suffire pour créer une vocation ou au moins créer de l'intérêt pour le métier de journaliste? Oui, si l'on en croit Léna, 20 ans, qui fait partie des étudiantes inscrites à ce cours.
Au début, j'avais choisi ce cours-là parce que c'était métier de l'édition et du journalisme, et l'édition et le journalisme, c'est deux sujets qui m'intéressent pas mal. Par rapport au premier semestre, ça m'a pas mal plu parce qu'on a eu tout ce qui est historique et tout ça, moi ça m'intéresse et tout. Dans l'autre partie du cours, avec notre autre prof, on parle beaucoup de l'actualité, la manière dont les médias peuvent être utilisés, l'information, les fake news, tout ça, la manière d'écrire. Et vu que j'aime beaucoup écrire, ça m'aide beaucoup aussi dans les outils d'écriture et tout ça, puis l'information, l'actualité. Enfin, les réseaux sociaux, les médias, c'est plein de sujets qui m'intéressent. Et puis avec M. Poplar, on voit aussi les points de vue, comment synthétiser des articles et trouver peut-être des prises de position dans certains articles. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant.
Et la spécificité du second semestre qui vient de s'ouvrir pour les étudiants de Michael Popelard, c'est la possibilité qui leur sera offerte de rencontrer des professionnels du métier de journaliste et de leur poser des questions. Et c'est justement l'un des journalistes de Radio VFM, Aurélien Renaud, que vous retrouvez régulièrement associé aux infos du Bessin et aux commentaires des matchs du Stade Malherbe, qui était le premier à passer devant les étudiants. Un événement qui ne doit rien au hasard puisque notre journaliste est un ancien étudiant de la formation LLCER Parcours Anglophone.
Monsieur Popelard, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps puisque c'était mon professeur à l'université. Il a aussi été directeur de mon mémoire que j'ai rédigé ces dernières années. Donc on est toujours resté en contact. Il a été témoin de ma préparation des concours pour l'école de journalisme, l'école supérieure de journalisme de Paris. Donc on a toujours communiqué depuis mon départ de l'université en 2013. Et donc l'idée, c'était de venir partager avec ces étudiants mon expérience du journalisme, la façon dont j'ai pu mettre le pied dans ce métier, la façon dont je me développais, puisque je suis un jeune journaliste. Je rappelle que je n'ai que 26 ans et j'apprends encore le métier. Mais l'idée, c'était d'avoir cette visée-là, avoir une fenêtre sur le début du parcours d'un journaliste, en l'occurrence avec un focus sur le métier autour de la radio, leur expliquer comment ça se passe lorsque j'enquête dans le Bessin, je prépare mes sujets sur le Bessin et comment se déroule tout ce que je fais autour du sport et du Stade Malherbe de Caen. Je pense que ça leur a bien plu et je remercie encore une fois Monsieur Poplar pour cette invitation.
Et l'option journalisme de la fac d'anglais de Caen n'en est qu'à ses balbutiements, mais elle pourrait devenir à terme un réel tremplin pour les étudiants en licence ayant le désir de s'orienter vers le journalisme. À 103 ans, l'ancien membre de la Royal Navy, Bill Price, est décédé cette semaine. Ce londonien avait débarqué en Normandie en 1944 et à l'âge de 30 ans. Il avait notamment fait parler de lui en octobre dernier lorsqu'il avait décidé de remettre ses archives militaires au musée d'Arromanche. Après sa disparition, le directeur du musée du débarquement, Frédéric Saumier, a exprimé toute sa reconnaissance et celle de la ville d'Arromanche pour son engagement en 1944 et pour le don de ses effets personnels au musée.